Retrouvez-nous sur radiojudaica.be. Retrouvez-nous sur radiojudaica.be.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis contente de vous retrouver après cette longue absence, indépendante de ma volonté, due aux aléas du calendrier. Et il y a quelques mois, j'ai reçu dans ce studio Émilie Danchin, qui est venue nous parler de la photo comme thérapie. Lorsque je l'ai rencontrée, elle m'a fait part d'une autre approche qu'elle utilise avec ses patients, la psychosomatique relationnelle. Et curieuse de nature, j'ai voulu en savoir un peu plus. Et évidemment, j'ai voulu partager ce savoir avec vous. J'ai donc réinvité Émilie. Bonjour Émilie.
Bonjour Tania.
Alors, je sais que vous travaillez, vous allez me dire si c'est juste, hein, vous travaillez en instaurant un dialogue dynamique et convivial. Et
ça, j'essaie en tout cas.
Et vous privilégiez l'interaction pour accompagner les personnes dans leur évolution personnelle, à leur rythme et en fonction de leur situation actuelle.
Oui, vous... alors je peux, te...
oui.
Je peux vous dire,
oui,
par interaction, je veux dire dialogue en fait, au sens où c'est parfois une crainte pour les personnes quand elles viennent en thérapie qu'on les laisse toutes seules, parler toutes seules.
Okay.
Donc, c'est vraiment d'essayer de, que ce soit un dialogue vivant où ils ne soient pas seuls justement, mais en relation, quand ils racontent leur histoire, je suis là avec eux, on partage.
Par rapport à la psychothérapie, on va dire plutôt classique, où on parle devant quelqu'un qui écoute et qui répond quasi pas.
Je crois que ça évolue quand même, je ne veux pas faire de généralité,
non,
mais il y a encore, en tout cas il y a cette crainte, c'est une représentation aujourd'hui assez parfois commune, surtout pour les personnes qui n'ont jamais consulté, avec cette idée de la psychanalyse, cette neutralité. Donc du coup il y a cette crainte de se retrouver toute seule face à quelqu'un qui reste neutre, qui dit oui.
Et donc pour ça vous utilisez des outils non-verbaux,
aussi, oui.
Créatifs, et corporel,
oui.
Et vous proposez par exemple le dessin, la photographie et le collage, mmh. ou la relaxation et l'hypnose, le travail imaginaire et la projection dans le futur.
Tout à fait, oui.
Donc c'est tout un programme.
Oui, c'est-à-dire que forcément, comme je dis aux patients quand ils débarquent, que forcément ça va être verbal, hein, parce qu'on va être obligé de se parler. Bon, j'ai pas encore eu de patients qui auraient été muets, mais... là, je ne sais pas comment je ferai. Donc, il y a forcément ce dialogue qui s'instaure. Mais en fait, très vite, on sait que le verbal, quand même, va être insuffisant. C'est-à-dire que on en est tous conscients. Quand on a un problème, on n'a pas trop de difficultés ou parfois on arrive à le dire. Mais finalement, on est vite dans un cercle vicieux au niveau de la pensée. Donc, très vite, il va falloir essayer de trouver d'autres manières de réexprimer le problème et de pouvoir exprimer les choses de manière plus unifiée.
Et donc, c'est là que vous utilisez toutes les autres techniques, donc le dessin, la photographie.
Voilà, oui.
Ah oui, d'accord. Et donc, j'ai aussi cru comprendre, bon, j'imagine, et c'est normal, que vous êtes attentive à la qualité de la relation thérapeutique et vous ajustez votre approche en fonction de chaque individu. Alors, ce qui est aussi intéressant, parce que vous n'êtes pas focalisée sur une façon de faire. Vous vous adaptez mm-hmm. à chaque patient, on dit
oui,
patient,
oui.
client. Ou individu.
Oui, tout à fait. Alors, je dis patient. Dans ce cadre de travail-là, c'est pour moi, ce sont des patients parce que quand les personnes viennent, c'est parce qu'il y a un problème et que c'est un accompagnement thérapeutique. Donc, ce n'est pas un service commercial. Et effectivement, je peux utiliser des outils, c'est-à-dire utiliser la photo, de proposer de faire un dessin, proposer d'imaginer une photo imaginaire, enfin faire plein de choses. Mais je n'ai pas des protocoles tout
type.
Fait, oui, où je me dirais, ah, madame est dépressive, alors on va faire d'office comme ça.
D'accord, vous ne mettez pas non plus les gens dans des cases.
Non.
D'accord, et vous ne généralisez pas non plus.
Non, même quand j'ai des personnes qui arrivent avec des étiquettes, ce qu'on pourrait
appeler des étiquettes.
Des étiquettes,
c'est ça que je voulais dire, vous n'êtes étiquetée pas.
Non. Justement, alors c'est parfois compliqué quand les personnes arrivent avec justement un diagnostic ou une étiquette, parce que c'est important, hein, ce diagnostic, C'est important. S'il y a vraiment quelque chose, que ça soit diagnostiqué, alors, tout le travail va justement être de pouvoir permettre à la personne de réexprimer ce qu'elle vit.
D'accord.
Y compris cette pathologie. Hein,
qu'on a mis comme pathologie, auquel on a donné un nom.
Oui. Mais que justement, on ne peut pas réduire la personne à cette étiquette-là, parce que si vous avez deux personnes qui sont, par exemple, dépressives, ce n'est pas la même histoire, ce n'est pas la même manière.
Sinon, elles risquent de rester coincées dans leur étiquette.
Tout à fait. Si on dit, vous êtes dépressive, et donc le traitement, c'est prendre des médicaments, et puis qu'on ne fait pas de thérapie, par exemple, ça va l'enfermer dans sa dépression. Alors qu'en fait, tout ce qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui se passe. Donc, pas mettre une étiquette, mais se demander quel est le problème et de commencer à s'intéresser justement à l'histoire globale de la personne.
Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'elle est dans une chambre enfermée qui s'appellerait dépression, oui. Dépression, par exemple, et que vous permettez d'ouvrir une porte pour sortir de cette chambre-là pour aller voir, explorer au-delà de l'étiquette?
Il faut essayer de remobiliser la personne autour de sa vie, de ce qui lui arrive, jusqu'au moment où on va comprendre pourquoi les choses ne font plus sens et dans quelle situation d'enfermement la personne se trouve.
D'accord.
Parce que finalement,
donc dans quel style de chambre, reprends la métaphore, donc dans quel style de chambre elle est et pourquoi est-ce qu'elle est dans cette chambre-là?
Tout
ou on s'en
fait.
Fout pourquoi? On veut juste qu'elle sorte de cette chambre.
Alors, le pourquoi, c'est on va se dire que finalement, ce qui fait qu'à un moment donné, on se trouve, ce qui va nous amener à la psychosomatique relationnelle dont on voulait parler aujourd'hui, c'est que si la personne, à un moment donné, se trouve enfermée quelque part ou a perdu cet élan ou cette créativité pour vivre son existence de manière un peu agréable, c'est qu'il y a des choses sur le plan relationnel qui se sont mal passées. Au point, ça s'est tellement mal passé, ou de manière répétitive, ça s'est jamais bien passé, au point qu'à un moment, la personne s'est repliée sur elle-même.
Elle a fermé cette fameuse porte.
Elle ne l'a pas fermée volontairement, c'est qu'à un moment donné, quand on n'arrive plus à faire les choses, à un moment donné, il y a un épuisement, une fatigue. Ça peut d'ailleurs être vécu sous forme, par exemple, d'une dépression. J'ai plus d'allant, c'est une dépression sur le mode imaginaire, où je n'ai plus d'idées, je ne me projette plus, ça ne va pas, je n'aime rien. Comme ça peut jouer aussi sur le plan physique, je suis fatiguée, je suis épuisée. Parce qu'il y a certaines choses aussi, le pourquoi on va mal, il y a certaines choses qui sont liées au passé, mais aussi c'est parfois parce que la vie nous met à rude épreuve, et à un moment donné, c'est simplement un manque d'énergie pour retrouver...
Réel.
Ouais.
Et donc, si je termine ce que j'étais en train de dire de vous, c'est que le but étant d'harmoniser petit à petit les tensions corporelles et psychiques au travers d'une approche globale tenant compte du corps et de l'esprit reliés par l'imaginaire. Je trouve que rien que ça, donc je répète ce que j'ai dit, c'est donc d'harmoniser les tensions corporelles et psychiques.
Oui.
Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que parfois il y a un gap, il y a une tension entre ce que l'on pense et ce que l'on ressent et des mots physiques.
C'est toute cette question de qu'est-ce qui relie le corps et l'esprit, et c'est toute cette question de comment est-ce qu'on fait pour harmoniser les choses. Parce que c'est quand même mystérieux, comment ça se fait que le corps et l'esprit sont unis. En fait, on ne peut pas les séparer.
D'accord.
On a tendance à les séparer, hein, d'ailleurs. Le mental prend une place énorme, ou disons nos pensées, sur un mode conscient, sont tellement présentes qu'on pourrait penser que c'est ça qui prend toute la place. Or, pas du tout, il y a ce corps en même temps qui fonctionne et qui fonctionne de manière plus ou moins harmonisée avec le mental. Donc, c'est effectivement dans cette approche globale, moi je vais essayer d'accueillir les personnes en considérant que ce n'est jamais séparé. Donc, c'est une approche qui est psychosomatique. Donc je vais considérer que la personne, quand elle vient me voir, elle vient avec ce qu'elle pense, parce qu'elle pense en permanence, et puis qu'elle vient avec ce qu'elle ressent, parce qu'il y a un corps, et elle ressent plus ou moins, parce qu'on est plus ou moins coupé de nos ressentis physiques, et puis il y a aussi tout ce qu'elle rêve au milieu de ça.
Ça c'est l'imaginaire, relie le tout par l'imaginaire, cet imaginaire.
Effectivement, donc ce qui relie le corps et l'esprit, c'est une espèce de mouvement, on appelle ça la projection en psychosomatique relationnelle. C'est un mouvement de projection qui est l'imaginaire qui va relier tout ce qu'on ressent, nos ressentis. Et ça, c'est extrêmement corporel pour commencer. Et donc, il relie donc, tout ce qu'on ressent sur le plan physique à ce qu'on perçoit et ce qu'on conçoit à l'extérieur.
Mais par exemple, juste pour faire comprendre à nos auditeurs, est-ce que la boule au ventre est un exemple?
La boule au ventre, c'est une sensation physique.
Qui est liée à quelque chose de psychique.
C'est quelque chose qui est... Quand on vit, par exemple, c'est plus pour poser la question autrement, le stress,
ouais.
On est tous soumis à des moments de stress.
Et tout à
selon,
fait.
Oui, voilà. Mais selon les personnes, donc je peux avoir 3 personnes qui vont venir consulter pour problème de stress. Et c'est là où je dis que je ne vais jamais avoir un protocole tout fait. Parce que la première personne va peut-être me dire, voilà, je suis complètement stressée. Et moi, je m'intéressais à savoir comment est-ce qu'elle vit ce stress.
Et comment est-ce qu'elle sait qu'elle est stressée?
Voilà, exactement. Certaines personnes vont le décrire uniquement sur un mode physique. Ils vont arriver, ils vont dire « je suis envoyée par mon médecin parce que je suis en train de faire un ulcère et
d'accord.
je suis stressée ». Et ils ne vont parler que du symptôme, on va dire, somatique. D'autres personnes vont venir et par exemple, vont parler que de choses psychologiques. Elles vont vous dire « moi, je suis stressée parce que j'ai eu une petite enfance comme ci ou comme ça et donc je suis stressée. Est-ce que ma mère était stressée ou mon père était stressé ?» Ils vont faire une explication psychanalytique.
Mais est-ce
que... Et jamais parler de leur corps. Et puis, vous avez des personnes qui vont un peu faire un mixte des deux. Et le tout, c'est de se dire, OK, s'il y a un symptôme de stress, s'il y a des épreuves de vie et un contexte qui est souvent relationnel, hein, donc qui fait que la personne est stressée, même si la personne, elle le vit que sur le plan mental ou que sur le plan physique et qu'elle sépare les choses... Moi, je sais que face à moi, j'ai quelqu'un qui a un corps, un esprit et normalement aussi un imaginaire pour relier les deux. Donc, je vais essayer de m'intéresser à la personne pour voir est-ce que ça bloque plutôt, est-ce que c'est comme ça qu'on parle d'harmoniser les choses? Est-ce que cette personne, lorsqu'elle me parle de son stress, n'est que dans son mental et complètement coupée de son corps, hein, okay. ou ne fait aucun lien entre son symptôme, enfin, le fait qu'elle a de la tachycardie et puis ce qu'elle vit, donc il va falloir relier les choses. Vraiment m'intéresser à la manière dont c'est vécu.
Et est-ce qu'on n'a pas, c'est une parenthèse mais oui. qui est peut-être aidante, est-ce qu'on n'a pas un appauvrissement de notre vocabulaire émotionnel? C'est-à-dire,
si,
est-ce qu'on
ne
met
fait.
Pas tout le temps le mot stress, or si. Qu'on pourrait avoir, par exemple, mm-hmm. juste une peur mm-hmm. naturelle due mm-hmm. à, je ne sais pas, mm-hmm. à une maladie ou mm-hmm. je ne sais pas, quelque chose. Est-ce qu'on ne manque pas de mots qui
si,
nous
si,
enferment
si. On manque aussi de précision par rapport aux émotions. Donc ça peut être une manière de travailler aussi. C'est que parfois, donc c'est pour ça que moi j'aime bien, pour justement que le verbal ne suffit pas. On va dire, OK, voilà Tania, tu sais, je ne vais pas bien, je suis stressée. Ok, mais qu'est-ce que ça veut dire en termes de sensations, en termes d'émotions, en termes de relations? Donc là, c'est très, très intéressant de sortir du verbal. Donc par exemple, de proposer aux personnes de dessine-moi une photo imaginaire dans laquelle tu es stressée pour que je puisse, moi, me représenter avec toi ce que ça veut dire. Donc du coup, on rentre dans une image et la personne commence à décrire très concrètement ce que ça veut dire être stressée. Et à ce moment-là, on peut préciser les choses parce qu'une fois qu'on a une photo de la personne, une photo imaginaire lorsqu'elle est stressée ou lorsqu'elle est triste, après, je vais demander de préciser c'est quoi l'émotion réelle, c'est quoi, et cette émotion, elle est vécue comment sur le plan physique? C'est un exercice très intéressant à faire. Est-ce qu'on peut le mesurer? Et quand on a fait ça, quand tu es stressé et que voilà, dans cette situation-là, quel est le genre de pensées qui te viennent? C'est très intéressant ces exercices quand on travaille dans les images, parce que dans les images, le corps est mobilisé.
Oui.
Parce que les images sont non-verbales, donc les images sont charnelles, elles sont corporelles. Et quand on regarde les images, on pense... On pense beaucoup et on les décrit, donc on pense qu'on est dans le mental.
Mais ça passe par quelque chose de physique.
Mais en fait, avant même qu'on ait pensé quoi que ce soit, les yeux voient des choses et donc c'est un canal direct avec toutes les mémoires corporelles.
Ah, mais je comprends mieux la photothérapie.
Ouais, c'est ça. C'est pour ça que la photothérapie est psychosomatique et permet de retravailler les choses de manière un peu plus subtile que juste dans le verbal. Ouais, ouais.
Alors, pour rentrer un peu plus dans le sujet, c'est un monsieur qui s'appelle Sami Ali qui oui. a mis ça oui. sur pied, on pourrait dire. C'est quoi un peu son histoire? Comment est-ce qu'il en est arrivé à faire de la psychosomatique relationnelle?
Alors, d'abord, j'aurais dire que moi, j'en suis arrivée à finalement choisir cette école-là de psychosomatique relationnelle parce que j'étais très intéressée par l'image et aussi par les rêves. Et que finalement, quand j'ai trouvé l'école de Sami Ali, j'étais vraiment ravie parce que ils ont une approche du rêve qui n'est pas interprétative. Ils s'intéressent vraiment juste à... C'est une approche très littérale du rêve, très corporelle, très psychosomatique, justement. Donc, j'avais enfin trouvé une école où je me sentais à l'aise dans leur manière d'aborder la question des images et du rêve et où j'allais pouvoir raccrocher toute cette réflexion sur les images.
Parce que vous, personnellement, ça vous parle?
Complètement, oui. Alors, Sami Ali, c'est un homme assez âgé. Aujourd'hui, hein, il a plus que 90 ans, je pense. Il est psychanalyste. Il a de multiples facettes, de multiples cordes à son arc, puisqu'il est, il est philosophe de formation, il est psychanalyste. Il a créé donc, le Centre international de psychosomatique relationnel à Paris. Il est peintre aussi, il fait de la calligraphie et il traduit des poètes mystiques de l'arabe vers le français. Il est égyptien. Et en fait, il est passé par la psychosomatique en France. Et je pense qu'une chose qui l'a fortement interpellé aussi, c'est que venant d'une culture plus orientale, il s'est rendu compte en France que les personnes en France ne se souvenaient pas de leurs rêves.
D'accord.
Oui. Et alors qu'en Égypte, les personnes vivaient beaucoup plus leur existence en relation aussi à leur activité onirique la nuit, que c'était assez naturel de parler de ce dont on avait rêvé et d'accorder la valeur.
Oui, c'est normal. Chez eux, c'est la norme. Je veux dire, on parle de nos rêves et elles ont des messages et ils interprètent leurs rêves.
Voilà. Tandis qu'ici, et d'ailleurs c'est vrai, hein, si on en parle autour de nous, c'est quand même pas la majorité des personnes qui s'intéressent à leur activité onirique. Ici, on peut passer toute une existence, sans prêter attention aux souvenirs des rêves. C'est-à-dire que c'est même pas, je ne parle même pas des personnes qui ne s'en souviennent pas, parce qu'il y a des personnes qui ne s'en souviennent pas.
Mais déjà, en tant que parent, c'est rare de demander à nos enfants « t'as rêvé quoi cette nuit ?»
Ouais.
Je me rends compte, je ne sais pas combien, je n'ai peut-être pas très souvent posé cette question.
Donc, il est parti de ce constat-là, et du coup, il n'a pas posé un jugement en disant « c'est bien là-bas et ce n'est pas bien ici », ou l'inverse, il s'est posé la question de qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ou représenter l'absence du souvenir des rêves. Parce que donc le rêve, on n'y a jamais accès en direct. Donc les images des rêves, on n'y a jamais accès en direct. On a accès à l'activité onirique juste par le souvenir. Et donc il a constaté que certaines personnes se souviennent et d'autres pas.
Donc le rêve n'est qu'un souvenir.
On a accès à l'activité, enfin au rêve, que par le souvenir du rêve.
D'accord.
On y a accès quand on rêve, la nuit, on est dedans. Mais finalement, c'est quand on se réveille... Soit on s'en souvient, soit on ne se souvient pas, mais quand on s'en souvient, on n'a pas, un accès direct au rêve, on n'est plus dedans. On a un accès par le souvenir du rêve. Donc c'est toujours aussi un peu partiel. Même quand on se souvient bien d'un rêve, on n'est plus en train de rêver le rêve, donc on s'en souvient. C'est comme un peu la relation à nos souvenirs et au passé. On n'a jamais accès au passé directe.
Hein, d'accord,
donc c'est indirect.
Je comprends maintenant.
Oui. Ce n'est pas un détail sur du coq à l'âne, mais c'est très, très intéressant parce que le rêve est composé d'images.
Il
n'est composé que d'images. Et le réel aussi est composé d'images. Et donc, nous, on se construit sur le plan de l'identité face au réel, ou dans le rêve, donc qui est composé d'images.
Mais c'est... tout le monde rêve.
Tout le monde rêve. Donc le rêve, c'est ça qu'explique Sami Ali, c'est que c'est d'abord une activité biologique et que tout le monde rêve. Donc tout le monde rêve, donc ça c'est quelque chose qu'on peut dire aux patients. C'est que tout le monde rêve, par contre, on ne se souvient pas tous de nos rêves de la même façon. Et c'est la question qui s'est posée. Pourquoi, dans certaines cultures, il y a une absence de souvenir des rêves? Et à partir de là, il a commencé, donc il y a une présence ou une absence du souvenir des rêves. Et à partir de ce moment-là, il a commencé à se poser la question de comment... qu'est-ce que c'était que ce rêve? Comment est-ce que nous sommes structurés au travers de l'activité du rêve? Et qu'est-ce que ça veut dire quand on ne s'en souvient pas? Donc,
vous me faites peur, moi je ne me rappelle jamais de mes rêves.
Mais c'est juste bien peut-être de s'en rendre compte, parce qu'à ce moment-là...
Enfin, ou rarement, quoi.
Voilà, c'est déjà différent.
Rarement que jamais.
Ouais. Parfois peut-être une image, uniquement une image. Parce qu'il y a ça aussi, hein. Donc c'est que parfois on s'en souvient ou on a juste accès, on se souvient juste d'une image, mais juste d'une petite image, alors on a l'impression, alors du coup on balaye le souvenir du rêve, on se dit ah c'était juste une image, ou juste une sensation, donc c'est pas un souvenir. Alors juste une image ou juste une sensation, on a déjà le fil sur lequel on va pouvoir tirer, parce que en fait, parfois on se souvient pas de l'image du rêve, mais parfois on se souvient d'une sensation quand on se réveille. Et la sensation, c'est déjà... c'est l'envers de l'image, puisque dans les images sont couvertes d'émotions. Dans les images, il y a tous les affects. Donc face au souvenir du rêve, vous avez des personnes qui se souviennent presque plus, mais qui peuvent se réveiller avec des impressions que c'était chargé d'affects pendant la nuit.
Et on est tous égaux devant nos rêves?
Qu'est-ce que vous voulez dire par
ça? Est-ce qu'il y a des gens qui ont, par exemple, parce qu'ils sont moins stressés ou parce qu'ils sont rêvent plus, et d'autres qui sont alcooliques et qui ne se souviendront jamais de leurs rêves? Je ne sais pas, je veux dire, ou parce qu'on va dormir plus tard, parce qu'on est des fêtards, on se rappelle moins bien de nos rêves. Est-ce que c'est un lien avec quelque chose de physique? Le fait d'aller dormir à 2 heures du matin à 8 heures du matin plutôt que de 10 heures du soir à 8 heures du matin. Enfin, est-ce qu'il y a un lien physique?
Le rêve, il est biologique. Hein. Donc, comment se constitue ça, c'est l'approche de Sami Ali. C'est considéré qu'on ne peut pas séparer le corps et l'esprit et qu'on se structure d'abord sur le plan du corps hein, et que l'imaginaire, le rêve, vient se structurer à partir du corps et que ça se passe plus ou moins bien selon un petit peu là où on vit et donc la manière dont on s'occupe de nous aussi physiquement. Donc, si on prend le tout petit bébé, qui va structurer les premières ébauches de pensée, les ébauches de structuration, c'est pas de la pensée au début, c'est ce qui va rythmer notre existence. Or, le rythme est biologique. C'est d'abord, le rythme, il est imprimé par la mère.
Tout à fait.
Voilà. Et puis ensuite, il est imprimé par la manière dont on nous berce, etc. On nous nourrit et par le rythme. Et c'est ça qui va structurer le rythme nuit. Jour. Et donc, il y a cette activité onirique qui se met en route. Donc, à ce niveau-là, il est universel. Et puis après, ça va se développer, cette activité onirique. Ce que je dirais qu'on est tous égaux devant le rêve, c'est parce qu'il est biologique et c'est ce qui rythme, toute notre existence est traversée à la fois par l'énergie du rêve, hein, c'est même le soubassement, l'énergie du rêve. Donc pour Sami Ali, il n'y a pas d'inconscient, mais il y a une réalité absolue qui est le rêve.
D'accord.
Ce que je trouve très intéressant, c'est que le rêve nous dépassera toujours, puisque dans le rêve, en fait, c'est là où on reprojette toute notre existence. Donc, c'est là où on crée aussi
donc,
notre existence.
Donc, quand on entend que la télévision ou des films agressifs ou violents ont une influence sur nos rêves, ce n'est pas tout à fait vrai. Je veux dire, quelque part...
Je pense que ça peut avoir une influence, parce que c'est quand même des images. Donc, on est en canal direct sur ce qu'on voit, donc ça peut nous influencer. Mais de manière individuelle. Parce que ce que je voulais dire sur le côté universel du rêve, c'est qu'on est tous baignés dans l'énergie du rêve.
D'accord.
Après, ça va être très fortement... Coloré par cette empreinte relationnelle, donc la qualité de présence, hein, surtout des premières relations. Hein. Et puis, alors, après, ce qui est évident, là où c'est universel, pour répondre à votre question, c'est que je pense que le rêve, c'est vraiment ce qui a le plus de valeur personnelle. Donc, ce qu'on peut se dire tous, et là, on est tous à la même école, quelle que soit notre existence, c'est que le rêve, il a une valeur personnelle. Donc, quand on a une bribe de rêve, forcément, ça dit quelque chose de personnel. Personne ne peut influencer ce qu'on va rêver.
C'est pour ça, donc, films violents ne peuvent pas influencer. Ils peuvent influencer par les images.
On est quand même influent. Personne ne peut nous dire tu vas rêver de ça cette nuit.
D'accord.
Mais par contre, on baigne dans l'existence et on est imprégné par tout ce qu'on voit, tout ce qu'on regarde et tout ce qu'on ressent. Donc là, on n'est quand même pas séparé du monde.
Alors,
après, ce que je voulais dire quand même, c'est que les substances, les drogues, et alors forcément les antidépresseurs, les médicaments, etc., ça par contre, je veux dire, les substances, ça a forcément une
influence.
Oui. Donc si on prend beaucoup de somnifères, ça va avoir une influence sur le sommeil, donc ça crée une sorte de sommeil plus artificiel, et donc ça va forcément, ces médicaments ont une influence sur le corps, donc si on carapace le corps de manière chimique pour trouver quand même un sommeil,
évidemment, ça va
une influence sur l'imaginaire. Donc ça, c'est très compliqué, parce qu'il y a des moments où on ne peut pas faire sans un antidépresseur ou momentanément un somnifère pour remettre le sommeil en place, mais il faut absolument une approche plus personnelle pour, à un moment donné, rattraper un peu le wagon de ce qui a une valeur personnelle pour la personne et, à un moment donné, mettre un sevrage en place. Parce que sinon, la camisole chimique, elle détruit la créativité et la capacité à rêver l'existence. Alors, c'est ce qu'on peut dire, il y a une phrase qui est très, très touchante, c'est que qui est très claire, c'est pas « on rêve la nuit et on pense le jour », et Sami Ali dit « on rêve et on pense tout le temps ». Et c'est vrai, la nuit, parfois, quand on rêve, on se souvient qu'on pensait même notre rêve la nuit. Donc ça, c'est assez extraordinaire quand on est en train de rêver, quand on est en train de penser ce qu'on a, c'est magnifique. C'est extraordinaire. Parce qu'on est en prise directe sur ce qu'il y a de plus personnel et on est en train de reprojeter.
Mais ça, c'est les très, très bons rêveurs qui font.
Ah non, je pense que tout le monde peut faire ça.
Donc, il y a des bons rêveurs et des mauvais rêveurs, du coup.
Non, il y a des moments où on est coupé de notre activité onirique. Et la journée, ceci dit, on pense et on rêve tout le temps. Donc, dans cette activité du rêve, il y a aussi tout ce qu'il appelle, Sami Ali, les équivalents du rêve. Donc toutes ces rêveries, c'est toutes ces activités créatives, c'est tout ce rapport aussi au religieux, mais pas dans le fait de se normer à des règles, mais dans le fait tout ce rapport sacré et affectif à la vie, et de créativité, et de jeu, et de, où on est plus ludique aussi dans les choses.
Donc dire à son enfant, arrête de rêver, concentre-toi, c'est quelque part anti...
C'est grave.
Oui, voilà, ça ne va pas.
Ouais.
Parce
grave.
Que on leur interdit quelque part de penser, rêver en même temps pendant la journée.
Oui. Je pense que si on a un enfant qui est complètement rêveur, et que c'est ce qu'il y a des... alors après, c'est ça. Après, il y a des personnes qui sont plus rêveuses que d'autres, ça c'est sûr. Donc par exemple, on constate, parce qu'on se dit, ah, je ne me souviens jamais de mes rêves, certains artistes, je ne sais plus si c'est Marguerite Duras, mais certains grands artistes ne rêvent plus la nuit, ne se souviennent pas de leurs rêves de nuit.
Pourquoi ? Parce qu'ils utilisent...
Alors, Sami Ali dit que c'est certainement parce qu'ils sont tellement dans une rêverie constante la journée qu'ils ne se souviennent pas tellement de leurs rêves la nuit. Donc, il faut faire attention. Alors,
quand on a un quota...
Oh, moi, je ne pense pas qu'il y ait de quota.
Non, je veux dire, si on a beaucoup rêvé le jour, on rêvera moins la nuit, on s'en rappellera moins.
Je crois qu'il n'y a pas de règles, vraiment.
D'accord,
pas.
Non,
mais par contre, ce qui est important, c'est cette activité de rêverie. Donc, c'est on rêve et on pense tout le temps. Et l'idée aussi, dans tout ce mouvement de projection et de fonctionnement aussi de l'imaginaire, c'est que quand même, il y a un équilibre entre ce qui se passe à l'intérieur de nous et puis la manière dont on va construire le monde
D'accord.
à l'extérieur. Donc, le fonctionnement onirique, c'est le soubassement pour y arriver. C'est ce qui va nous permettre de se projeter de manière à se dire « Ah, ça fait sens, en fait ». Comme quand on regarde une photo. Pourquoi est-ce que quand on regarde une photo, ça fait sens ? Là-dedans, c'est ce qu'on projette des mondes de signification et aussi des mondes de sensations. Donc ça, c'est la base. Mais par rapport au rêve, je pense que c'est très important parce que l'idée, ce n'est pas de se mettre à rêver et être complètement déconnecté de la réalité. Là, on va aller jusqu'à des fonctionnements, c'est plus des fonctionnements dans l'extraordinaire. Donc ça, on va jusqu'à la psychose. Le tout, c'est qu'il y ait quelque part...
Un équilibre.
Un équilibre. Donc on reste bien quand même sur
Terre. Terre.
Oui, tout à fait.
Alors, je vais demander de nous mettre Stromae et Tous les Mêmes pour quand même permettre aux gens de
tout
rêver
fait.
Un
oui,
peu.
Oui, tout à fait. À surtout sur cette chanson.
Voilà, à ceux qui nous écoutent. Et puis, on reviendra avec la seconde question. Merci.
Macho méchu, bon de ma vie est infidèle. Si prévisible, non je ne suis pas certaine. Que tu le mérites, avec de la chance que vous aime. Dis-moi merci. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise. Mate une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises. Tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise. Tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre ce serait pire. Quoi toi aussi tu veux finir maintenant. C'est le monde à l'envers. Moi je le disais pour te faire réagir seulement. Toi tu pensais. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous. Prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Facile à dire, je suis gnangnan. Et que j'aime trop les blablabla. Mais non, 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 c'est important. Ce que t'appelles les ragnagnas. Tu sais, la vie, c'est des enfants. Et comme toujours, c'est pas le bon moment. Ah oui, pour les faire, là, tu es présent. Mais pour les élever, y'aura des absents. Lorsque je ne serai plus belle. Ou du moins au naturel. Arrête, je sais que tu mens. Il n'y a que Kate Moss qui est éternelle. Moche ou belle,
c'est jamais bon.
Bête ou belle,
c'est jamais bon.
Belle ou moi,
c'est jamais bon.
Moi ou elle,
c'est jamais bon.
Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve.
tous les mêmes, et y en a marre. Tous les mêmes.
Alors donc j'espère que voilà sur Stromae et Tous les mêmes on a pu un peu se laisser aller et se peut-être rêver un peu et penser en même temps. Mais comment se passe un premier rendez-vous avec vous ? Vous posez quoi comme question ? C'est parce que c'est spécial. Je veux dire, si je viens chez vous avec un problème, je suis violente avec mes enfants, enfin, pas. Ça, on commence par quoi ?
Bah, de toute façon, souvent ça commence au téléphone parce que c'est à 90% par téléphone. Donc déjà au téléphone, je vais au moins poser un petit peu les choses sur le plan du tarif, sur le plan des rythmes des séances, etc. pour que les personnes déjà se sentent quand même à l'aise quand elles vont venir. C'est-à-dire que je leur explique aussi que justement dans la question du rythme et la fréquence des séances, c'est que ça va fortement dépendre d'eux, puisque le rapport au temps est subjectif. Donc je leur dis que ça va être lié à des choses très objectives, la capacité à financer une thérapie, mais aussi que le temps est très imaginaire, est très subjectif. Je leur dis, il y a des personnes, elles viendraient bien 3 fois par semaine et elles ne se sentiraient pas du tout étouffées. Il y a des personnes, si elles viennent une fois toutes les 3 semaines,
c'est lourd.
Ah, mais c'est complètement envahissant.
D'accord.
Voilà, donc je ne peux pas non plus imposer des choses. Maintenant, je vais essayer de faire en sorte qu'on trouve un rythme pour qu'il se passe quelque chose aussi, qu'on soit un peu, on embarque un peu. C'est une aventure, la thérapie. C'est une aventure humaine.
C'est quoi en somme la thérapie
La thérapie, pour moi, c'est d'abord une question de rencontre. Donc justement, puisque c'est surtout et avant tout une question de relation et d'accompagnement. C'est-à-dire que les personnes, je pense, du côté du patient, on aura beau courir 50 000 thérapeutes et essayer 50 000 techniques, s'il n'y a pas de rencontre digne de ce nom et donc un peu chargée aussi sur le plan affectif avec le thérapeute, il ne va pas se passer grand-chose. Et si le thérapeute de l'autre côté n'est pas présent avec les patients, c'est présent émotionnellement aussi par rapport à ce qui se passe, il ne va rien se passer. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de miracle.
Il faut une bonne relation. En tout cas, une relation saine.
Il faut que les personnes soient présentes. Donc, c'est une mise en présence.
Et vous demandez beaucoup aux patients ?
Je leur demande d'être présents au sens où je leur dis que j'ai besoin d'eux. J'ai besoin d'eux qu'on n'est pas... Ça, c'est quelque chose que je dis. Vous n'êtes pas tout seul. Je vais essayer de vous poser des questions, faire des liens avec vous, poser des hypothèses. Mais moi, je peux poser des hypothèses. Mais elles doivent être validées par la personne.
Et quelle est la différence avec une simple thérapie ?
Alors, en psychosomatique relationnelle, donc moi d'abord, je demande quand même de remplir une feuille, de dire un peu pourquoi on vient, est-ce qu'il y a un médecin traitant ? Donc là, parce qu'on est en psychosomatique relationnelle, je sais que le corps a son importance, donc ça m'intéresse quand même de savoir si dans une première ou parfois une première séance suffit avec des personnes, faire ce bilan-là, ça peut déjà prendre du temps. Mais il faut à un moment donné que j'ai une petite idée de ce qui se passe sur le plan somatique, corporel. Est-ce qu'il y a des maladies ? Comment ça se passe dans le corps ?
D'accord.
Voilà. Après, je vais aussi donc demander un petit peu comment ça se passe sur le plan relationnel. Donc, est-ce que les personnes sont entourées, etc. Alors là, les personnes parfois sont juste au présent, d'autres qui remontent jusqu'à la petite enfance, etc. Mais il faut que je sache un petit peu comment elles vivent leurs relations. Et puis que je puisse.
Quelles relations ?
Comment ça se passe sur le plan relationnel ? Vous savez, il y a des personnes qui sont très conflictuelles, par exemple.
D'accord.
Des personnes qui sont complètement repliées. Il y a des personnes qui sont complètement
paranoïaques.
Et la personne,
elle sait répondre
à cette
question ?
Mais non, pas nécessairement. Donc, c'est pas posé comme ça. C'est laisser la personne un peu... C'est d'abord essayer de la mettre à l'aise et puis la laisser... c'est un peu sur le mode du bavardage aussi, pour mettre la personne à l'aise de savoir. Alors, qu'est-ce qui vous amène ? Dites-moi un petit peu.
D'accord.
Et puis alors ça part un peu dans tous les sens, c'est mon rôle.
Et si elle dit, je sais pas, moi c'est mon médecin qui m'a dit de venir, un problème, j'ai un ulcère, il ne parle que de vous et il m'a dit de venir vous voir. Mm-hmm. Mais je sais pas pourquoi je suis là.
Je vais demander alors comment ça se passe votre ulcère, quand est-ce que ça s'est déclenché. Je vais partir. Si la personne est fixée sur le somatique et sur son médecin, je vais partir de là. Si la personne est plus, par exemple, fixée sur une reconversion professionnelle ou fixée sur son, le travail, je vais partir, c'est des portes d'entrée. Donc, j'accompagne par là où ça se passe. Et puis après, par contre, je sais que je vais devoir quand même interroger. Donc, je vais à un moment demander donc, comment ça se passe sur le plan somatique. Comment est-ce que vous dormez ? Question qui est quand même très préoccupante pour beaucoup des personnes.
D'office, vous demandez comment vous dormez.
Ouais. Est-ce que vous dormez bien ? Est-ce que vous dormez mal ? Est-ce que vous prenez des médicaments, etc. Et alors, ce qui m'amène à la question suivante, qui pourrait paraître très excentrique ou très dérangeante ou très folle, même pour certaines personnes, je dis, alors du coup, est-ce que vous vous souvenez de vos rêves ? Donc moi, sur le plan psychosomatique, relationnel, je sais sur le plan du corps quel genre de maladie il peut y avoir, donc à quel point la personne a développé des maladies. Et puis je vais savoir, grâce au fait que la personne me dit « je ne me souviens jamais de mes rêves » ou « de temps en temps » ou « très bien », etc., parfois raconte un premier rêve, je vais savoir aussi, en termes de fonctionnement imaginaire, où est-ce qu'on en est. Donc le fonctionnement somatique, le fonctionnement imaginaire de l'autre côté.
Par exemple ?
Par exemple, je peux avoir quelqu'un qui va avoir...
Toujours un ulcère.
Non, développer un... Venir parce qu'il y a une récidive d'un cancer. Et puis qui me dira qu'elle ne se souvient plus du tout de ses rêves. Et puis je vais un peu fouiller. Et puis qui me dira peut-être qu'elle se souvient d'un rêve, un cauchemar. Par
exemple. Et vous allez mettre un lien entre la récidive... C'est comme ça.
Non, pas nécessairement.
Hein. Non, ok. D'accord.
Non, ce que je vais chercher à faire, c'est de faire le lien. Je vais jamais. Ce sont des liens qui sont circulaires, hein, donc il y a une circularité.
Vous n'allez pas donner une raison.
Non, on va jamais dire.
Votre cancer est psychosomatique.
C'est le grand malentendu sur la psychosomatique, et donc on voit des gens qui arrivent malades
et qui
sont coupables de leur cancer, hein, donc parce qu'il y a les médecins en plus qui leur disent ça, mais je vais jamais me permettre de penser, tiens, madame fait un cancer du sein parce que. Ouais. Elle a une mauvaise relation à sa mère. Hein. Et dire des choses pareilles, ou dire à des fibromyalgiques c'est que c'est parce qu'elle se sacrifie tout le temps, ou des choses comme ça. C'est hallucinant. Hein. Donc on a des personnes qui arrivent, qui ont fini par développer des maladies, qui souffrent dans leur corps, que c'est peut-être effectivement qu'il y a une manière, que le corps exprime quelque chose, ça c'est sûr. Le corps est toujours aussi, il exprime à sa façon des choses. Mais de là à dire tu as créé cette maladie voilà parce que psychiquement tu as un problème, c'est enfermer les personnes dans leur maladie une deuxième fois. C'est très très grave. Donc non, ce qu'on va faire en psychosomatique relationnelle, c'est plus se dire comment ça se passe, quel fonctionnement imaginaire, donc est-ce qu'il y a un imaginaire qui est en bon état, donc ça, le fait que la personne puisse parler de son souvenir des rêves, hein, qui est présent, absent, etc., ça nous donne vraiment un élément diagnostique. À côté de ça, je sais sur le plan somatique s'il y a des faiblesses, des fragilités, quel terrain somatique. Et là, je peux commencer à me dire parce que je sais que c'est lié et que ce qui relie les deux, c'est la qualité du terrain, en fait, l'espèce de bain relationnel dans lequel la personne baigne actuellement et qui est en résonance avec le bain relationnel depuis toujours. Donc là, je peux commencer à me dire, ok, et tout ça, ce n'est pas un lien linéaire de cause à effet, c'est une unité.
D'accord.
C'est vraiment une unité dans laquelle il y a une totalité de choses. Donc, ce n'est pas une somme A plus B plus C plus D. C'est une totalité parce qu'en fait, toutes les choses, oui, elles s'additionnent, mais en fait, elles résonnent aussi. Donc, ce n'est pas juste 1 plus 2 égale 3. C'est 1 plus 2 égale 5 ou 6 puisque ça résonne.
Mais par exemple, on vient chez vous que quand on a quelque chose de somatique, c'est-à-dire par exemple quelqu'un qui se ronge les ongles jusqu'au sang ou quelqu'un
alors,
qui
alors ça
a
c'est somatique ou c'est psychologique, vous voyez, c'est ce genre de questions qu'on peut se poser, c'est
un tic ou je sais pas, des gens quelqu'un... qui ont des tics ou des gens plutôt plus... est-ce qu'on c'est, alors c'est ce style de
ce que je fais, je reçois toutes sortes de personnes et le but va être toujours
on n'est pas obligé d'avoir quelque chose de somatique.
Non.
On peut avoir un problème de concentration, sais pas. Ok.
Oui, tout à fait. Parce que alors ça, les problèmes de scolarité, c'est très intéressant. Hein. Les ados avec les problèmes de scolarité, parce que c'est comme les... Parce que souvent, on va se fixer sur le symptôme. Alors, le problème de scolarité, par exemple.
D'accord.
Ou l'anorexie, le trouble alimentaire, etc. Alors, on se fixe sur les symptômes, donc les problèmes de scolarité, les ados qui décrochent, etc., qui ont des troubles de la concentration. Je ne parle pas de ceux qui ont de la dyslexie ou des choses plus...
D'accord, non.
Pas simplement un ado qui, à un moment donné, n'arrive, décroche.
Ok.
Et alors, qu'est-ce qu'on fait ? On lui met la pression.
Ouais, bien sûr.
tu vas faire des cours en plus, Et puis d'ailleurs, c'est un ado, c'est pour ça qu'il est problématique. Beaucoup de parents, à partir du moment où l'adolescent devient problématique, c'est parce que c'est un adolescent. C'est
d'accord.
Comme si pour les femmes qui étaient à un moment donné étaient un peu pénibles autour de la cinquantaine, on se disait juste, ça c'est la préménopause.
D'accord.
Voilà, pour surtout pas s'interroger, simplement se pencher sur tiens, qu'est-ce qui se passe, dans quelle situation est-ce que la personne est. Alors justement, voilà, l'adolescent, quand même, moi souvent, la première chose que je dis à l'adolescent et aux parents, c'est bah, la scolarité fait partie d'un tout.
D'accord.
Et là-dedans, il y a du relationnel. Et parfois, c'est pas que les parents qui posent problème. Adolescent. Bah, ça peut être des problèmes avec
d'autres. Donc, vous allez analyser, par exemple, sa relation à ses profs, à ses amis. Non.
Je vais faire la même chose. Je vais m'intéresser à ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe au niveau du corps? À quel point il va bien sur le plan corporel? Le sommeil? Le souvenir des rêves? Je vais voir s'il y a des cauchemars. Quel genre de cauchemars?
D'accord.
Je vais m'intéresser à ce qui se passe sur le plan relationnel aussi. Et je vais chercher s'il y a plus. En fait, quand il n'y a plus du tout de souvenir de rêve, c'est que les choses sur le plan relationnel, à un moment donné, se sont figées. Donc, donc à partir du moment où je sais qu'il n'y a plus du tout de souvenir des rêves, en tout cas pour l'instant, je vais vraiment me poser la question de qu'est-ce qui s'est passé sur le plan relationnel, dans quelle situation est-ce que la personne se sent complètement coincée.
Donc,
avec les ados, l'adolescent, je vais me débrouiller avec les moyens du bord parce qu'ils sont quand même assez méfiants.
Il faut être très vivant.
Avec les ados, il faut être très vivant. Et il faut surtout leur faire sentir qu'on se souvient bien de comment c'était à l'adolescence.
Et qu'on comment fait vous étiez
oui, oui. Et leur dire, moi, je me souviens de comment c'était. Je sais ce que c'est.
OK.
Et ça ne va pas durer, tu sais. Ça, il faut leur dire
ça
aussi.
Ça va passer.
Ça va, c'est rock'n'roll et ça va passer. Il y a du bon, il y a du t'inquiète. Et ça va, c'est vraiment une période particulière. Mais après, donc, avec les ados, il faut les faire comme partout. Donc, c'est faire bavarder. Enfin, sur le mode, quand je dis bavardage, c'est pour que ça soit suffisamment vivant. Arriver à essayer de que la personne se détende un peu. Pour qu'elle commence à raconter et qu'elle commence à raconter aussi ce qui se passe dans sa vie.
Et
donc l'adolescence sur ce qui se passe à la maison. Il faut essayer de la faire parler aussi de ce qui se passe à l'école parce que les adolescents sont en prise aussi avec les autres.
Oui, c'est souvent ouais. Parents,
c'est
copains,
école.
C'est
plus que école. Les parents, hein, oui. Il faut sonder les deux. Ça peut être aussi en dehors des parents. Et là, on peut commencer à voir là où ça bloque.
Mais vous ne faites rien de somatique, c'est-à-dire que vous ne massez pas ou vous ne mettez pas sous hypnose ou
Si, sur le plan corporel, il y a deux manières de travailler. C'est travailler avec les images, parce que quand je fais parler les personnes, elles choisissent des images ou elles amènent des images ou je les prends en photo, il est évident que là, le corps est mobilisé.
D'accord.
Voilà. Donc là, le corps, en travaillant avec les images, je sais que le corps est mobilisé.
Leurs images, les images d'eux-mêmes, je veux dire, vous les prenez
images,
en photo?
Oui, aussi, ça peut. Oui.
Okay.
Donc soit les prendre en photo, donc là, ça semble évident qu'ils sont mobilisés corporellement, soit ils vont faire des autoportraits eux-mêmes, donc là, leur corps est mobilisé, soit ils doivent prendre eux des photos, mais quand on fait des photos, le corps est mobilisé aussi. Donc tout ça,
d'accord.
Même quand on fait du dessin, le corps est mobilisé.
Et si la personne vous dit, moi, je ne comprends même pas votre question, c'est quoi? Comment est-ce que je dois mettre mon imaginaire en dessin?
Je ne vais pas leur dire, mettez votre imaginaire.
Alors, vous dites ça comment?
Je leur dis, bon, je le dis dès le départ qu'on va parler, mais qu'à un moment donné, quand même, on sait bien que quand on parle, à un moment donné, ce n'est pas suffisant. Ça, on le sait. En fait, quand les gens viennent en thérapie, tout le monde, on le sait. Et donc, voilà. Donc, je vais leur dire, comment est-ce que je pourrais dire? Ça fait, par exemple... Un ado qui serait épuisé parce qu'on lui a mis telle pression qu'il est de toute façon épuisé. Donc déjà, je vais dire qu'il va falloir stopper cette pression. Puis je vais dire, bon, quand même besoin de savoir comment tu te sens. Donc je vais dire, tiens, donne-moi ta photo d'identité. Puis on va la photocopier. Puis je vais dire, tiens, fais un peu un dessin, une photo imaginaire de comment tu te sens. Alors... Là, souvent, ce que j'ai, c'est je ne sais pas dessiner. Moi, je ne sais pas dessiner,
c'est ce que j'allais vous...
j'ai pas d'imagination. Puis
c'est ce que j'allais vous répondre. Oui, j'ai dit, qu'est-ce que si on ne sait pas dessiner, qu'on n'a pas d'imagination.
Non, moi, je vais dire, mais tout le monde sait dessiner. Alors là, je prends une feuille, puis je fais un gribouillis de rien du tout, mais vraiment un scrabouchin, hein, n'importe quoi, mais où on voit vaguement un petit bonhomme. Puis je monte, puis je dis, qu'est-ce que c'est? Donc la personne me dit, c'est un petit bonhomme. Tout le monde sait dessiner. Et je dis, c'est pas important. Je dis, c'est pas un concours de dessin. J'ai dit, c'est que ce soit un support visuel, que je puisse, moi, me mettre. C'est comme si je mettais tes lunettes. Il faut que je puisse me représenter comment tu vois les choses. Alors, je ne le fais pas à chaque fois, hein, parce qu'en plus, c'est quand même assez intense. Mais je le fais une fois de temps en temps. Et donc, régulièrement, enfin, par exemple, tous les 3, 4 ou 5 séances, ou ça dépend des fois plus ou moins fréquemment, à un moment donné, je vais dire, bon, ça serait quand même pas mal qu'on refasse quelque chose en passant par les images.
D'accord.
Parce qu'on s'assure à ce moment-là que le corps est mobilisé. Donc, il y a cette technique, parce que là, ça, c'est une technique, la photo. Et puis, il y a de la relaxation psychosomatique aussi, où là, c'est une autre manière de travailler. Par exemple, quelqu'un va dire, voilà, je suis épuisée et je n'arrive pas à me détendre. Donc là, on peut mixer les deux, d'ailleurs, avec la photo. Donc, plutôt que dire, bon, écoutez, vous n'arrivez pas à vous détendre, alors je pense que vous devriez faire du yoga et tel type de yoga, où là, c'est ce qui est très bien hein, de faire ça, mais si on va à un cours de yoga ou de stretching, sera à 30 élèves, tout le monde fait les mêmes gestes. Et donc là, je vais dire, comment est-ce que vous pourriez vous détendre un tout petit peu ? Et donc, on est à la recherche, autant dans les images, on va être à la recherche des micro-détails qui sont importants.
Oui, là, on va chercher les
micro-gestes.
Mais j'ai cliqué sur un truc quand vous dites, je dis aux parents qu'ils devraient moins mettre la pression, mais c'est presque les parents à ce moment-là qui ont besoin de venir chez vous, parce que pour eux, mettre la pression, ça fait partie presque de leur fonctionnement.
Ah bah les adolescents, en l'occurrence, ils portent beaucoup sur les épaules, c'est-à-dire qu'ils partagent vraiment... Les adolescents sont quand même... ils portent le fonctionnement des parents. Alors, quand en plus il y a un divorce, il faut se rendre compte que l'adolescent est au centre du fonctionnement de parfois 4 adultes. Et ils portent ça. Oui. Quand l'adolescent est problématique, il ne faut quand même pas se leurrer. On ne peut pas soigner, on ne peut pas accompagner un adolescent si on n'a pas au minimum une alliance thérapeutique, une relation digne de ce nom avec au minimum un des parents. Il ne se passera rien. Sinon.
Donc d'office, la première fois, vous voyez les parents et l'ado ?
Ça dépend. En tout cas, c'est souvent les parents qui téléphonent. À ce moment-là, j'essaye de faire en sorte que l'ado se mobilise quand même pour me téléphoner, ce qui ne va pas de soi. Ils arrivent souvent à reculons. Et puis après, j'essaye de voir, je leur dis, t'avais envie d'être là ou pas, toi Et je le dis, parce que si t'as pas du tout envie d'être là, autant que je le sache, ça ne sert à rien de... C'est parce que j'ai besoin de toi. Ça, je le dis, je vais avoir besoin de toi.
Ok.
Voilà. Quand il y a problème d'authenticité avec les ados, hein, qui ne disent pas les choses ou qui nous disent une chose. Et puis, c'est important d'être aussi parfois un peu en contact avec les parents pour se rendre compte de si on est complètement mené en bateau ou pas. Pas pour dire à l'ado, tu mènes en bateau, pas bien, t'es vraiment méchant, et de renforcer ce truc-là. Mais pour dire, écoute, il y a un souci, parce que si quelque part tu me mens... Enfin, tu dis pas la vérité, tu dis pas les choses telles qu'elles sont, on tourne en rond. Ça va refléter justement une impasse, la même impasse qu'avec les parents. Hein.
On va faire un petit break. Je vais demander à Richard de nous mettre Claudio Capeo avec Ma Planète. Et on se revoit juste après.
Toi la fille qui me rend si dur et si tendre, qui sait me parler, je suis barré, je veux rien entendre. Quand j'ai le cœur sourd, quand j'ai le cœur lourd, de pluie de peine, elle aime tremper dans de l'acier. Quand je suis paumé, que tout m'enchaîne. J'ai parfois l'âme prise dans des filets qui me tourmentent. Parfois l'âme grise. Et si ce soir tu me demandes comment ça va, ça va, ça va, ça va sur ma planète, je te répondrai ça va, ça va, ça va comme ci, comme ça. Les bières, les vins que je bois en vain n'ont pas le goût de la fête. Mais tant qu'on a le cœur qui bat, ça va, ça va. À toi l'ami, le seul homme qui m'a tenu la main. Quand tous les jours je m'en faisais pour mes lendemains. Toi dont je sais que même blessé, t'es toujours là pour me porter, pour abréger ma peine jusqu'à ce que je sois léger. J'ai parfois l'âme en crise, ma joie de vivre quand on me la rende. Demande comment ça va.
ça va sur ma planète. Je te répondrai, ça va comme si comme ça. Les bières, les vins que je bois en vain n'ont pas le goût de la fête. Mais tant qu'on a le cœur qui bat, ça va. À ce que j'ai parfois négligé, peut-être un peu libre, pour pas déranger, moi le naufragé, sur mon bateau ivre. J'ai pas de bouée, pas de feu de détresse, je suis pas doué pour les caresses. Mais si jamais vous me demandez quand tout me blesse, comment ça va sur ma planète, je vous répondrai ça va comme si comme ça. Les bières, les vins que je bois en vain n'ont pas le goût de la fête. Mais tant qu'on a le cœur qui bat, ça va. Comment ça va sur ma planète. Je te répondrai ça va comme si comme ça.
Alors, on a écouté Claudio Capeo et Ma Planète. Et moi, je voulais vous demander, donc, on a parlé des ados, mais les adultes, ils viennent avec... Ce serait la je dirais pas la maladie, mais la raison pour laquelle on prendrait plutôt cette thérapie-là qu'une autre, ce serait quoi? Par exemple, les maladies psychosomatiques seraient plus adéquates... Enfin,
bah, tout à fait.
Cette thérapie est plus adéquate pour des maladie psychosomatique ou...
Alors, moi, je pense qu'elle est adéquate pour tout. Et puis, une de mes caractéristiques, c'est d'être quand même spécialiste en photothérapie, donc d'utiliser l'image. Donc, mais ça fonctionne pour tout. Ce que je vais chercher à faire, c'est accompagner les personnes, d'apprivoiser les personnes pour qu'on se rencontre. Et puis ensuite, donc, d'accompagner les personnes pour faire en sorte qu'à un moment donné, il y a un mouvement imaginaire, hein, donc un peu de créativité, qui se remette en place. Mais ça, c'est une chose. Après, c'est sûr que je travaille avec les médecins dans mon quartier. Donc, je travaille à Jette. Et que là, étant donné que je suis thérapeute en psychosomatique relationnelle, moi, je vais frapper aux portes des médecins qui travaillent vraiment autour de mon cabinet. Et donc là, bien sûr, c'est très, très intéressant de travailler en synergie avec les médecins, et eux m'envoient ce qu'on appelle des patients plus psychosomatiques.
C'est-à-dire des insomniaques ou...
Alors, l'insomnie, c'est une chose, mais non, mais fibromyalgie, polyarthrite, Parkinson, enfin des maladies, maladies de Crohn. Alors après, il y a aussi tous les symptômes allergiques ou eczéma,
les patients allergiques et eczéma, par exemple.
C'est intéressant, on peut venir en psychosomatique relationnelle. Mais il ne faut pas attendre d'être malade.
Ça peut se faire avant,
je pense,
prévention. Enfin, pas en prévention, pour mettre en place.
Je pense que de toute façon, il n'y a pas... Je veux dire, à partir du moment où on est en vie et qu'on est là, on a un corps. Et donc, ce corps, il est soumis aussi à rude épreuve. Et puis, il vieillit. Et donc, enfin, je veux dire, personne n'est à l'abri d'une maladie.
D'accord.
OK, il y a un patrimoine génétique aussi là-dessus. Enfin, je veux dire, et puis il y a aussi tout ce qui se passe au niveau environnemental, etc. Donc, je veux dire, on peut tous tomber malades. OK ? C'est pas parce que ces espèces de croyances magiques que je fais une psychanalyse, donc je ne serai jamais malade. Ça, c'est délirant. Là, on est vraiment dans du délire. Donc, on peut tous tomber malades. Ça, c'est une chose. Par contre, je pense qu'il y a quelque chose dans l'existence où la thérapie, et notamment dans une approche psychosomatique relationnelle, est intéressante parce qu'elle peut permettre de faire un bout de chemin pour vivre quelque chose aussi sur le plan relationnel, où on va découvrir qu'est-ce qui fait que les choses ont une valeur personnelle pour soi-même, qu'est-ce qui fait qu'on s'y retrouve sur le plan relationnel, et de voir un petit peu chacun sa propre méthodologie personnelle pour que l'existence, quelque part, ait du sens.
D'accord.
Et ça peut se faire à n'importe quel âge. Et c'est un apprentissage qui est vachement important. Donc moi, quand j'ai tout petit, 12 ans, je suis très contente si je peux lui donner des clés, quelque part. Pour
il commence bien dans la vie. Ouais. S'il peut déjà vous rencontrer à 12 ans, c'est qu'il...
Mais si j'ai une personne de 80 ans, c'est merveilleux aussi. Même si un jour, j'ai eu quelqu'un de plus âgé, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que je peux faire pour ce monsieur? Enfin, je me suis dit... Mais en fait... On peut travailler aussi avec des personnes qui sont en fin de vie ou qui vont venir consulter parce qu'elles sont, elles sont malades et qu'il y a un diagnostic qui est irrévocable, qu'il y a des personnes qui vont mourir dans l'année ou des choses comme ça. Parce qu'aussi, dans les périodes de vie terriblement difficiles où on sait qu'on est mis vraiment, qu'on risque de mourir, ouais, on a d'autant plus besoin de trouver du sens.
Donc vous aidez à trouver
ça,
du sens.
Oui, oui. Ouais.
D'accord. Et comment on vous joint? Comment est-ce qu'on fait? Parce qu'il nous reste 2 minutes. C'était alors, ultra intéressant, mais il nous reste 2 minutes. Ouais. Comment est-ce qu'on fait?
Alors, c'est certainement donc le téléphone, donc le 0498
D'accord.
16 14 11. Donc ça, c'est le GSM sur lequel on peut me joindre. Donc, je m'appelle
0498 16 14 11.
Ouais. Et donc, je m'appelle Émilie Danchin. Donc, on peut laisser un message. Et puis alors, je rappelle, et donc, il n'y a pas de crainte à avoir. C'est, je veux dire, on va déjà un peu parler au téléphone. Et après, on est toujours libre de prendre rendez-vous. Et alors, ensuite, il y a un site qui s'appelle analytiquephotographique.be. Donc,
analytique Y.
Alors, A-N-A-L-Y-T-I-Q-U. Ouais. Photographique, photographique.be, qui ça c'est le site qui explique justement un peu toutes les approches au niveau de la thérapie et comment je travaille. Ça c'est une chose. Mais vraiment pour une consultation.
Et,
il faut
et on a besoin des mois avant d'avoir rendez-vous.
Non,
bien,
non.
Alors flexible sur vos horaires.
Je reçois essentiellement le mardi, le mercredi et puis en soirée. Et
donc, mardi, mercredi, la journée,
ouais,
et les autres
jusque 8, 9, 10 heures du soir. Hein, donc, et les autres soirs, en plus, quand c'est nécessaire. Alors, il y a des disponibilités, mais donc ce n'est pas extensible non plus à l'infini. Parce que je ne ferai pas ça 60 heures semaine, c'est impossible.
Et une séance dure combien de temps?
C'est une heure.
Tout le temps, heure. Même la première fois?
La première fois, souvent, c'est plus long.
D'accord.
Parce que, et je préviens en général, parce que parfois les gens ne viennent qu'une fois et puis j'estime que j'essaye. Moi, la première fois, je crois que c'est très, très important. Parce qu'on essaye de poser un peu des éléments d'analyse quand même, de pouvoir poser des premières hypothèses.
Donc, et si puis on vient à longtemps chez vous?
Ah bah ça dépend.
Je veux dire, ça dure parfois 10 ans comme dans des thérapies ou
non,
c'est plutôt un an?
Certaines personnes, ça dépend aussi des personnes. Donc certaines personnes, je dirais, aujourd'hui, il y a 2 types de patients. Pour ceux qui font vraiment un bout de thérapie, il y a ceux qui viennent puis qui s'en vont, ça arrive. Mais après, ceux qui font vraiment une thérapie, il y a ceux où ça dure quelques séances, hein, ils relancent quelque chose et ça leur suffit, ils repartent dans leur existence. Puis il y a ceux, ils relancent quelque chose, puis ça les intéresse, alors ils veulent continuer un travail au long cours.
Et tout ça, vous expliquez au téléphone, quand on téléphone au 0498 16 14 11.
Tout à fait.
Parce que je dois rendre l'antenne, ouais. C'était super intéressant. Merci
Est-ce
beaucoup.
Est-ce que je peux juste dire quelque chose?
Oui.
Parce que donc il y a des formations en photothérapie dans l'approche psychosomatique relationnelle. Donc,
et ça, on trouve sur le site?
Oui, en septembre et en
novembre.
Voilà.
Okay. Ok, la semaine prochaine, je reçois Valérie Cohen pour parler de la synchronicité de la vie. Et entre-temps, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Merci.
Merci beaucoup, Tania.
Sur radiojudaïka.be.
Judaïka.
Judaïka.
round, round, up and down, all along the lonely town. See him sinking low, doesn't see the joy there is to know. And he cried from the misery, and he lies singing harmony. She is gone, there is no tomorrow, it is done. So now he must borrow the life of his brothers, and living in sorrow must be for the other. A chill his face, was that a tear? I thought I saw a trace. Loving people everywhere, where is she? She is not there. And he cries from the misery, and he lies singing harmony. She is gone, done. So now he must borrow the life of his brothers, and living in sorrow must do for the others.
lá perto de casa, tinha uma moreninha que toda tardezinha ia com a lata na fonte buscar água. Morena, moreninha, um dia não passou. Morena, moreninha, que caminho te levou? Perguntei pela moreninha, os passos da moreninha, os caminhos que andou. Insisti com muita espera, toda tarde na janela, moreninha não passou, nunca mais passou. Toda tarde tá faltando uma lata d'água lá na fonte. Toda tarde tá faltando uma lata d'água subindo a rua. Tempo comeu tempo, a noite hoje adiou. Vento soprou vento e o verão desinvernou. Era tão doce o riso da moreninha que eu sou cantor. Era tão grande o mundo que a moreninha desencantou. Mas o tempo de hoje um dia que te deu assim ao tempo, não teve tempo pra ver que era tempo de te olhar. E de novo tempo, tempo, dia de ô, verão desinvernou. Porta de igreja quem terminou, dentro quem começou. Tempo, tempo, dia de ô, verão desinvernou. Porta de igreja quem terminou, dentro quem começou. Lá perto de casa tinha uma moreninha.
Judaica,
Judaica.
Avinu Malkenu Shema Kolenu, Avinu Malkenu, Chatanu Lefanecha, Avinu Malkenu, Chamol Alecha.